Alors moi je suis curieux parce que déjà je vais me présenter et puis après je vais vous poser aussi la question qu'est-ce que là aujourd'hui vous pousse à vous dire moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'islam, sur cette religion. Moi je m'appelle Samuel, je suis à l'église de Saint-Maur, j'ai grandi à l'église et comme vous en fait. Et depuis 2-3 ans, j'ai de plus en plus à cœur le fait de partager l'évangile à des peuples qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Et il s'avère que quand on regarde l'actualité, dans ces peuples-là, beaucoup sont d'origine musulmane. Et donc, plus on est au contact avec eux, plus on veut avancer avec eux, plus on doit comprendre eux ce dans quoi ils croient. C'est de la même manière que eux, ils veulent comprendre nous ce en quoi on croit. Nous aussi, on a besoin de comprendre ce en quoi ils croient. Et c'est ça qui est intéressant. Après, derrière, c'est vraiment ce dialogue. On a cette chance-là en France, dans un pays où on a la liberté de pouvoir discuter, partager, même parfois rentrer profondément dans les choses. Et ça, c'est une richesse, ça. C'est vraiment une richesse que notre pays a, qu'on n'a pas forcément dans nos pays d'origine, et qu'il faut savoir la chérir. Donc ça, c'est déjà le cadre que je voulais placer. Voilà, juste comme ça, s'il y en a quelques-uns, par exemple, voilà. Pour vous, l'islam, qu'est-ce que c'est? Voilà. Pour commencer une première question. L'islam, vous associez à quoi? Juste Jenny, par exemple, l'islam, est-ce que tu as un mot? Est-ce que tu penses à quelque chose? Ouais, c'est vrai. Mohamed, c'est clair. Le prophète de l'islam, dans le Coran. Thomas, si tu as. Ouais, c'est une religion monothéiste. Voilà. Ou même, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que vous savez de l'islam, mais ce que vous pensez de l'islam aussi. Mettez les deux en même temps. Déjà, c'est avoir un premier survol. Voilà. Tu vois, Willy, par exemple, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'islam? Juste comme ça, tu vois. Avec les quelques interactions que tu as avec tes potes à Vitry. Enfin, j'en sais rien, moi. Non, mais c'est vrai. Vitry, c'est plein de musulmans. Vitry, c'est plein de musulmans. Donc, à un moment donné, tu es au contact de musulmans, tu vois. Ah, le frère, il peut l'aider, hein. Ils sont de la même famille. Non, mais entre nous, y a peur de rien. Violent? Ou vieux? Un familier, d'accord. Vocabulaire familier, d'accord. Vas-y. Tu dis ce que tu penses, c'est tout, il n'y a pas de filtre.
En fait, ils voient Dieu comme. En fait, ils ont peur de Dieu, ils n'aiment pas Dieu.
D'accord. Ah, tiens, j'ai entendu. Tu peux peut-être rebondir. Ouais.
C'est une religion dans laquelle, en fait, Dieu,
ouais.
C'est comme un père fouetteur, en fait.
Ouais.
Et il ne faut jamais en fait faire d'erreur parce que bon, il est tout le temps là en fait pour te corriger.
Pour te corriger,
ouais.
D'accord, ouais.
Et c'est pas vu en tant qu'un père d'amour en fait, qui est là pour t'aider en fait à sortir en fait de tes péchés ou des choses comme ça.
D'accord, donc il y a un côté discipline. Je tolère pas la moindre erreur. Si j'essaie de reprendre un peu les termes. David, Alexandre, juste pour rebondir ou dire autre chose complètement.
Moi, je suis parce que j'ai ma collègue.
Ouais.
Qui est très sympa et en fait, au début, je pensais un peu comme
mais c'est intéressant,
ceux qui ont dit que
ouais. Il y a un côté un peu violent,
violent
ouais,
etc. Mais en discutant en fait avec ma collègue Goodman, je me rends compte qu'elle a cet amour. Elle aussi, en fait, il y a beaucoup de similitudes avec nous
avec nous, ouais.
Et elle a ce côté, j'allais dire, évangélisation, peut-être pas.
Ah.
On parle beaucoup de Dieu.
Ouais.
De Dieu, de Mohamed, de ce qu'elle fait, ce qu'il faut faire dans la religion islam. Donc en ce moment, je retire vraiment plus l'amour qu'elle a aussi quand même pour les autres, pour Dieu.
Bon, je vois, c'est une expérience particulière que tu as dans ton travail, au quotidien. Et c'est comme ça que tu fais, c'est comme ça, c'est par ce contact-là que tu as un contact avec quelqu'un qui croit à la foi musulmane. Ouais. Alors, en tout cas, peu importe là où vous êtes, nos amis musulmans, représentent 6% de la population. Et d'ici 2030, ils représentent 10% de la population. C'est-à-dire que sur une population de 65 millions, vous avez 6 millions ou 7 millions qui sont d'origine musulmane et qui sont en plus concentrés dans les grandes villes. Donc c'est pas étonnant que vous vous retrouvez parfois dans certains quartiers plus que 6 ou 7%, des quartiers où il y a 15, 20, 25% aussi dans certains quartiers. Donc c'est important pour nous de comprendre et de savoir en quoi ils croient. Voilà, c'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui est très très... qui est dans notre quotidien en fait finalement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre quartier, que ce soit à l'école, on a grandi aussi avec des potes qui sont d'origine musulmane. Et là, je vais essayer avec humilité voilà, de vous partager les échanges que j'ai pu avoir avec quelques musulmans et les recherches que j'ai dû faire derrière quand, quand on m'a posé une question. Et je me suis dit, waouh, intéressant. Maintenant, il faut qu'on regarde derrière et comment on peut apprendre et comment on peut être éclairé. Là, c'est intéressant. J'ai d'abord parlé de vous parce que avant de parler de connaissances, ce qui est important, vraiment, le Seigneur, ce qu'il nous appelle, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Avant tout, ce que le Seigneur veut, c'est nos cœurs, en fait. C'est ça la première des priorités. Et avant de parler de quoi que ce soit avec l'autre, c'est déjà, avant d'y aller, est-ce que j'aime mon prochain déjà ? Mon prochain, il peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être catholique. Il peut paraître violent. J'ai peut-être une mauvaise idée de lui. Peut-être parce que ce que je regardais dans les informations. Peut-être que c'est parce que j'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais gamin, on m'a traité de sale chinois. J'en sais rien, enfin, tu vois. Tout est... Non, franchement, tout... Non, mais vous comprenez ou pas ? Tout est possible. Mais, comme il y a une position de faiblesse, en quelque sorte, au départ, c'est bon signe. Faites confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Tout pouvoir a été donné sur terre comme dans le ciel. Et voilà, n'ayons pas peur et essayons de les comprendre. Et quelle est l'attitude qu'il faut avoir ? C'est vers là que je vais vous amener déjà comme première slide. Que dit Dieu sur l'attitude que nous devons avoir sur notre prochain ? Et ça, c'est pas que avec les musulmans, tu vois. Ne jamais catégoriser des choses, ne jamais faire du favoritisme en disant ces gens-là, il faut les traiter. Il faut faire gaffe à leur attitude, à leur manière. Attention, tu vois. Ce qui est important vraiment, c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir, et ça c'est valable avec tout le monde, et donc avec les musulmans. Il y a un passage dans Actes 18, alors je ne sais pas si quelqu'un a une Bible, juste pour prendre, comme ça je vais vous faire lire les passages, quelques passages que je vais sélectionner. Alors, Actes 18, versets 24 et 25, c'est un individu qui s'appelle Apollos, qui est dans la Bible. Et il nous raconte la manière dont il parle de l'évangile. Et ça, c'est valable partout. C'est même pas une question, les musulmans, il y a une manière particulière. Tu vois ? Là, c'est vraiment avant tout notre cœur en relation avec Dieu, en fait, finalement. C'est un peu ça, quoi. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux déjà lire, et puis après David, pour le verset d'après ?
On va faire un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie.
Écoutez bien.
Il est arrivé à l'Éphèse. C'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus.
Ouais, t'as le 25, quoi.
L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude. Ouais. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean.
Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que quand on ne sait pas, on ne dit rien. Règle numéro 1, tu sais pas, t'as un doute, dis rien. Il faut être exact, parce que c'est la parole de Dieu. Et là, le musulman, il peut le voir, ça. Parce qu'en fait, quand on parle de la parole de Dieu, la manière dont on parle de la parole de Dieu, le respect qu'on a par rapport à cette parole, la dignité dans laquelle on a à parler de cette parole, si on hésite et on met un peu nos sentiments, on mixe un peu avec autre chose, enfin bref, tu vois, on veut dire un truc, mais on veut dire un truc parce qu'il nous a posé une question, donc il faut absolument que je lui réponde. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Avec exactitude, bien sûr, on peut faire des erreurs, mais c'est l'intention du cœur qu'on a dès le début. C'est vraiment l'intention. Et ça, l'exactitude, ça se prépare. On est amené à partager l'évangile à des musulmans, parce qu'ils sont dans notre entourage, que le Seigneur prépare notre cœur pour partager avec exactitude l'évangile. Ça peut être un musulman, ça peut être un catho, ça peut être n'importe qui, mais C'est une préparation qu'on doit avoir en amont. Et qui dit préparation dit temps passé avec Dieu. Et puis, n'hésitez pas, vous, dans vos petits groupes des fois, groupe de maison, groupe de jeunes, à partager vos doutes. C'est ça qui est intéressant. Vos doutes, vos erreurs, vos tentatives. Tant que c'est fait dans l'amour, tant que c'est fait dans le Seigneur, partagez-le et encouragez-vous à partager l'évangile avec exactitude. C'est quoi l'exactitude? On peut prendre des exemples très clairs. Par exemple, j'ai essayé de partager, je sais pas moi, de parler de l'injustice des hommes et de la justice de Dieu. Mais j'ai pas réussi. Mais je l'ai fait avec le cœur, j'ai pas trop réussi. N'hésitez pas à en parler les uns les autres et priez pour parler avec exactitude. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu, aide-moi à parler avec exactitude de ta parole? Tu vois, ça n'arrive pas souvent, tu vois, on n'a pas forcément ce réflexe. Voilà. Et le deuxième, 1 Pierre 3, 15, 17, alors je ne vais pas le faire lire parce que le temps est court, c'est de défendre notre foi avec douceur et respect, avec une bonne conscience. C'est l'attitude qu'on doit avoir avant de commencer, de rentrer dans la connaissance. C'est-à-dire que quand je suis au contact de l'autre personne, est-ce que mon cœur est déjà doux? Est-ce que dès le début, mon cœur est doux et apaisé déjà? Peu importe la manière dont il me répond, peu importe la violence dont il me répond, est-ce que je suis capable aussi de parler avec respect? Le respect dans le ton, dans la précision aussi. Pour moi, la précision, c'est aussi le fait aussi de respecter l'autre quand on parle avec précision, avec exactitude et avec une bonne conscience. Ça, c'est clair. Le Seigneur nous donne une conscience. Et cette bonne conscience, parfois notre conscience, eh bien, elle peut nous confirmer ou nous accuser finalement par rapport à ce qu'on dit. Donc vraiment, ça, c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir. Voilà. Il n'est pas une cible. Il est une âme que Dieu aime avant tout. Ça, c'est quelque chose de très important. De la même manière que nous, autrefois, même si certains ont grandi dans des familles chrétiennes, Dieu ne nous connaissait pas du tout, et nous le connaissait encore moins. Et bien, de la même manière, ce ne sont pas des cibles, mais ce sont des gens que Dieu aime. Et nous avons le privilège, l'honneur d'être ses ambassadeurs. Et le plus important, dans toutes les choses qui vont être faites, ça prend le temps que ça prend. Dieu a son temps. Clairement, il nous utilise pour proclamer la bonne nouvelle. Il nous appelle à être des témoins dans notre attitude, dans ce qu'on est surtout. Pas que seulement dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on est. Qui travaille derrière? C'est Dieu, à travers son esprit. Et c'est lui qui convainc le monde, c'est lui qui convaincra les cœurs, la personne, du péché, de la désobéissance par rapport à Dieu, de la justice et du jugement. Voilà, ça c'est vraiment déjà pour dire que vous voyez à quel point on est finalement pas grand-chose, à quel point Dieu, au contraire, il est énorme, à quel point on doit dépendre de lui. Et ça, c'est au quotidien l'attitude qu'on doit avoir de dépendance par rapport à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fera de grandes choses. Lorsque nous diminuons et lorsque Dieu croit, c'est là où Dieu agit. Ça a toujours été comme ça dans l'Église. Paul avant persécuté des chrétiens, et par la suite, il s'est humilié. Il a subi des persécutions, comme d'autres qui ont subi des persécutions. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ces situations-là. Les musulmans sont sensibles aussi à la manière dont nous vivons notre foi, la pratique de la foi par la suite. Alors, une des questions que les musulmans peuvent poser. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait face à cette question. Je me suis aussi basé sur des anciens musulmans qui sont devenus chrétiens et qui ont beaucoup plus cette compréhension de ce que les musulmans pensent et de ce que les chrétiens pensent. Donc, on a des frères et sœurs qui ont la chance d'avoir grandi dans ces deux cultures, bénéficiant de de ce qu'ils ont appris, de qui ils sont, de la diversité de l'Église. Et une des questions finalement que eux posaient avant, ou que d'autres personnes, c'est « la Bible est falsifiée, comme le dirait le Coran ». Et là, je mets ce point-là très important. Là, on est là dans une première optique, c'est comprendre notre prochain. Pourquoi pose-t-il cette question? Tu vois, on pourrait répondre direct, et Willy, tu l'as dit, elle n'est pas falsifiée, la Bible. Tu vois, tu comprends? Elle n'est pas falsifiée. Il n'y a pas d'erreur. Comment ça? C'est la parole de Dieu, tu es en train de dire que la Bible, elle est falsifiée. Mais eux la posent, cette question. Et nous devons comprendre pourquoi il pose cette question que la Bible est falsifiée. Autrement dit, elle a été détournée. La parole de Dieu n'est plus vraiment la parole de Dieu. Les hommes ont mis, tu vois, on peut leur poser cette question. Alors ça, c'est pas évident, parce que ça nous demande d'avoir un cœur calme. Qu'est-ce que ça veut dire falsifier ? Tu peux formuler, est-ce que ça veut dire que, en fait, tu es en train de dire que les chrétiens, enfin, pas toi, mais tes ancêtres, enfin, les gens qui ont cru avant, à un moment donné, ils ont falsifié, et donc c'est pour ça qu'il a fallu que le Coran arrive par la suite. Tu sais, le laisser poser et essayer de comprendre dans sa formulation pourquoi il pose cette question. Des fois, on s'aperçoit que les gens posent cette question parce qu'ils l'ont entendu de quelqu'un d'autre, donc ils la reposent. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est pas forcément une question qu'il pense lui vraiment. S'il n'y pense pas vraiment, on n'est pas obligé de s'arrêter sur cette question. Mais s'il y pense vraiment, à un moment donné, il faut répondre à sa question. C'est important, tu vois. Dieu nous a donné une raison à tout le monde, que nous soyons chrétiens ou nous pas chrétiens. Il nous a donné une intelligence. Et cette intelligence, justement, elle est faite pour chercher la vérité, tu vois. On l'a mis dans chaque nation, dans chaque personne, tu vois. On n'a pas privilégié les chrétiens juifs du 1er siècle. Parce que si c'était ça, aujourd'hui, les chrétiens, c'est que les juifs du 1er siècle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça s'est répandu. Donc, il y a des portes que le Seigneur veut ouvrir. Et là, volontairement, là, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi je cite le Coran ? En fait, je ne cite pas le Coran dans le sens où elle a une autorité. Je cite le Coran parce que le Coran, pour mon prochain, pour lui, c'est son livre de base. Donc, pour lui, c'est important. Si je lui montre la Bible au début, il ne va pas comprendre. Parce que pour lui, elle est falsifiée, tu vois. Mais par contre, si je me prends la peine c'est très important, c'est que si plus tard, et puis vous avez l'occasion de lire un peu le Coran ou lire des commentaires sur le Coran, priez avant. Priez avant que le Seigneur vous guide dans la manière dont vous allez expliquer la vérité à votre prochain. Même quand vous lisez le Coran qui n'est pas un livre biblique, pas un livre de Dieu, préparez votre cœur dans ce sens-là. C'est pas évident de lire un livre qui est totalement différent d'une autre. Et là, ce qu'ils disent, tu vois, ils le disent parce que eux, leur Coran le disent, tu vois. Et leur Coran leur dit quoi ? Il leur dit, la falsifière sciemment, ça veut dire que volontairement, j'ai falsifié, tu vois, ils parlent des juifs, tu vois, donc les juifs, c'est l'Ancien Testament chez nous, tu vois. Donc ils ont falsifié finalement ce qu'il y a dans leur livre. Donc ne soyez pas étonnés, voilà, premièrement, ne soyez pas étonnés qu'ils disent que la Bible, elle est falsifiée. Pourquoi ? Parce que c'est le Coran, le livre dans lequel ils croient, leur livre, vous dit, c'est Dieu, dit que c'est falsifié. Tu vois. Et après, ce qui est intéressant, il y a un autre verset musulman qui, lui, en fait, dit le contraire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu discutes finalement avec un musulman, tu peux t'apercevoir s'il a déjà lu un peu le Coran ou jamais lu le Coran. Tu vois. Et qu'est-ce que dit, en fait, derrière ? C'est que... et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, donc là, dans le contexte du Coran, on essaie de se mettre à la place de celui qui est musulman. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Et c'est qui le livre révélé avant toi ? Pour eux, dans leur contexte, c'est les juifs et les chrétiens. Donc d'un côté, tu dis que ça a été falsifié sciemment, c'est marqué dans le texte. Et puis d'un autre côté, il est dit que si tu as un doute, parce que là, en fait, on s'adresse à, entre guillemets, hein, c'est Allah qui s'adresserait à Mohamed, tu vois. Donc Mohamed, si tu doutes, tu es dans le Coran, on est dans le Coran. Eh bien, adresse-toi à des personnes qui ont lu le livre révélé avant toi. C'est incroyable. C'est incroyable, tu vois. Et comme ça, tu vois, non pas parce que tu es là pour lui dire « Ah, tu t'es trompé !» Mais c'est intéressant de dire « Eh, mais même dans le Coran, il y a un truc, un passage qui dit qu'il est intéressant de favoriser le dialogue entre les musulmans et ceux qui ont reçu la révélation avant, qui sont les chrétiens. » Et les juifs, quand bien même vous dites qu'il est falsifié, tu vois, quand il y a une tension, il y a réflexion, quand il y a réflexion, il y a discussion, et c'est là où c'est intéressant, tu vois, de rentrer dans ça. Donc ça crée la confiance, tu vois, quand on connaît aussi un petit peu ce dont on croit, ils vont dire, ah, le gars, il nous prend pas à la légère, tu vois, il veut quand même essayer de me comprendre, tu vois, et forcément, il va t'en dire encore plus, lui, sur ce en quoi il croit, et nous, on a besoin de savoir d'abord ce en quoi il croit. Comprendre notre prochain d'abord. Jésus comprenait aussi son prochain. On a besoin de comprendre. Ça, c'est la première optique. À chaque fois que vous voyez une slide bleue comme ça, ça veut dire que qu'est-ce qu'eux nous posent comme question. D'accord ? Et ensuite, dans l'autre sens, c'est comment nous pouvons témoigner à nos amis musulmans. Très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, répondre avec douceur et exactitude à chaque fois. C'est notre meilleure manière de dire on dépend du Seigneur quand nous répondons. D'accord ? Nous pouvons parler de choses sérieuses, de choses différentes, profondes, mais avec douceur et exactitude, comme le Christ que le faisait. Et là, vous allez voir, ici vous voyez les 5 premiers livres, d'accord ? La Torah, okay, les 5 premiers livres, hein, de Genèse à Deutéronome, les livres historiques, ça c'est le découpage de notre Bible, d'accord ? Les livres poétiques, les livres, les prophètes, les évangiles, Actes, les Épîtres et Apocalypse. En rouge, l'Ancien Testament, en vert, le Nouveau Testament. Ça, vous connaissez, d'accord ? C'est des imitations. Qu'est-ce que la Bible, déjà ? Et eux, pour eux, quand ils pensent à la Bible, eux, dans leur conception, ils pensent que, premièrement, il y a la Torah, la Taurat. Ils pensent qu'il y a le Zabour. Le Zabour, c'est quoi ? C'est le livre des psaumes, uniquement des psaumes. Non, mais il faut le savoir. Il faut le savoir, tu vois. Et le troisième, c'est l'Injil. L'Injil, l'Évangile. D'accord ? C'est-à-dire la bonne nouvelle. Et encore... Et après, le Coran.
C'est-à-dire que les autres ministres, ils considèrent que ce n'est pas le livre révélé ou c'est juste qu'ils n'ont pas le mot qui le définit ?
Alors ça, je vais te répondre juste après. Mais d'abord, eux, ils ont quatre... Quand ils parlent de livre révélé avant le Coran, c'est l'Injil, l'Évangile, selon leur conception. Hein. Zabour, les psaumes, donc uniquement livre des psaumes, et Taurat, les 5 premiers livres de la Bible, d'accord ? Et ce qu'il vient de dire Clément, alors c'est pour ça que j'ai mis une croix, c'est qu'en fait, ces livres-là auraient été falsifiés. Donc tu vois, il y a deux niveaux, il faut le comprendre déjà. Lesquels
auraient été falsifiés ?
Bah, l'Injil, le Zabour, le Taurat.
Et les autres ?
Ah, les autres n'existent même pas.
Ah, pour eux, ça existe.
Ah oui, ça n'existe même pas.
Donc ça fait pas partie des livres.
Voilà, voilà. C'est pour ça que quand il dit la Bible, tu vois, c'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire que même, ne serait-ce que te dire qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, vous pouvez déjà discuter tranquillement. Tu vois, autour d'un café, autour de quelque chose. Bah, en fait, dans la Bible, à la différence de, tu vois, eh ben, c'est Taurat, Zabour, Injil, mais en fait, Injil, ça veut dire les évangiles. Zabour, c'est psaume, c'est un des livres poétiques. Et Dieu s'est révélé à travers beaucoup de poèmes aussi, à travers les proverbes, à travers l'Ecclésiaste, à travers, tu vois, les prophètes aussi. Donc, tu vois, on peut discuter tranquillement, ne serait-ce que de poser le cadre, tu vois. En France, on a une culture où on aime bien discuter, tu vois. Même qu'on soit des... Même si on n'est pas des Français de souche, nous aimons discuter. Il y a une culture de, voilà, on pose nos idées, on pose nos choses. Donc, profitons de ça pour pouvoir expliquer tranquillement, avec douceur et avec exactitude. Qu'est-ce que la Bible, déjà ? Ça, c'est une première conception. Qu'est-ce que la Bible ? Donc, tu vois, quand eux, ils disent qu'est-ce que la Bible, c'est ça, c'est falsifié, nous, on leur dit déjà, c'est... Enfin, quand j'ouvre la Bible, c'est pas ça. Il y a aussi d'autres livres, encore. sans vouloir offenser quoi que ce soit, c'est factuel. Voilà. Et puis, il y a aussi un verset qui... c'est pour ça, les peurs, voilà. C'est un verset qui est important parce qu'il dit que... aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est pas par l'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà la conviction qu'on doit avoir, avant tout, derrière. On peut nous mettre dans le doute, mais n'oubliez pas une chose, et parfois la parole elle-même suffit. Si je ne sais pas comment répondre, faites confiance à la parole. Alors peut-être vous n'avez pas le raisonnement parfait, vous ne savez pas exactement, c'est pas grave, mais vous avez la foi que la parole de Dieu, elle est authentique. Et la parole de Dieu authentique dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, des hommes touchés par Dieu, par la grâce de Dieu, ont pu partager et parler de la Bible. C'est ça, la Bible. Voilà. Alors là, volontairement, ça vous fait plein de questions derrière. Hein. C'est volontaire. Hein. Vous voyez, hein, je réponds pas forcément précisément à vos questions. Vous aurez, plus on se pose de questions, plus on en a. N'ayez pas peur, ça c'est la marche chrétienne. La marche chrétienne. Mais voilà un peu l'attitude qu'il faut avoir, et déjà comment on peut commencer à répondre progressivement à ce que nos amis musulmans posent. Après, ils vont poser des questions encore plus fortes, qui touchent vraiment à notre foi, au cœur de notre foi, et ça, c'est vraiment important de savoir y répondre. Alors, une autre affirmation, c'est Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quand vous avez parlé avec un musulman ? C'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous savez, alors là c'est marqué déjà, hein, pourquoi eux, les musulmans, essayez de le reformuler avec vos propres mots, pourquoi il est impossible pour un musulman de dire que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi? Tu vois? Pourquoi c'est impossible, tu vois? Alors que nous, c'est la base, tu vois? Nous, c'est la base de dire qu'il est Fils de Dieu. T'imagines, si on ne dit pas qu'il est le Fils de Dieu, il est quoi alors? Un simple prophète? Un simple messager? Tu vois? Le cousin de Dieu? Enfin, je sais pas, tu peux... Vous voyez? Alors pourquoi? C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne. Eux, ils nous disent, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ils nous le disent direct. C'est pas possible. Est-ce que vous savez pourquoi ils le disent déjà? Est-ce que vous le savez pourquoi, concrètement?
Ils disent que Dieu n'a pas de femme.
Ouais.
Et que Dieu, il est unique.
Ouais.
Il peut être mis là autre chose, mais parce que je l'aurais appris.
Ouais. Alors, Dieu est unique. Alors, répète, parce que c'est intéressant, tu vois. On va rebondir sur les mots que vous avez, votre expérience. Dieu est unique.
Dieu est unique. Il n'a pas de femme, donc...
Dieu n'a pas de femme. Ouais. Très bien.
Il n'a pas d'enfant.
Donc, il n'a pas d'enfant, ouais. Comment tu veux avoir un enfant? Elle n'a pas de femme. Et moi, j'irais encore plus... Alors, est-ce que vous avez d'autres manières de dire par rapport à ce que Thomas vient de dire? C'est Thomas, c'est ça?
Oui.
Pas par rapport à Thomas. Juste, mettez-vous à la place du musulman. Alors, je sais que vous n'êtes pas musulman, mais... mais je pense que c'est l'amour du prochain, tu vois. L'amour prochain, c'est à un moment donné de se mettre à sa place quand même, tu vois, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que Jésus s'est mis à notre place, finalement. En sacrifiant et en donnant sa vie, tu vois. C'est ça, l'amour, tu vois. C'est aussi de... Tu vois, je dis pas en mettant à sa place, tu vois, mais au moins essayer de comprendre ce que lui pense de nous. Tu vois? Et la Bible dit, pour des fois, tu vois, en termes de relation entre l'un et l'autre, pourquoi voyons-nous, alors c'est pas pareil parce que c'est un peu dans le jugement, mais pourquoi voyons-nous la paille qu'il y a dans l'œil de notre voisin et ne voyons pas la poutre qu'il y a dans notre œil? Tu vois? Concentrons-nous déjà sur eux, ce qu'ils pensent de nous déjà aussi. C'est intéressant, tu vois? Ça aussi, c'est intéressant. On ne parle pas souvent, tu vois? Kevin, t'as des idées, toi, sur... Alors, ça peut t'aider, là. Hein. Vas-y, Jackie, rentre, si tu veux. Et Jésus ne peut être le Fils de Dieu. Tu vois, toi, t'as déjà parlé avec des amis musulmans. T'as déjà parlé de Fils de Dieu, un peu, ou pas? Un petit peu. Tu te rappelles bah, déjà, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller un peu plus loin? Moi, je sais pas, au moins, Fils de Dieu, lui, dit non, moi, je dis oui, et... On a le même Dieu. D'accord. On a le même Dieu, mais par contre, Jésus, Fils de Dieu, c'est pas bon. Tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant. Du coup, on met ce qu'on entend de nos amis, ou nous-mêmes, des fois, hein, ça peut nous arriver, tu vois. Ah, c'est pas grave. On a le même Dieu. Et d'un autre côté, bah, toi, Jésus, c'est Fils de Dieu, et toi, Jésus, c'est pas Fils de Dieu. Mais on a le même Dieu. Si on est satisfait, ne serait-ce que pour nous, hein, de cette raison-là, bon, bah, fine, hein, j'ai plus rien à dire, tu vois. Mais si le Seigneur nous taraude dans la volonté de comprendre un peu plus, alors c'est pas mal. Faites confiance à Dieu, il vous révèle progressivement les choses. Et là, comme il a dit Thomas, on va commencer par ce que Thomas a dit, tu vois, pour essayer de comprendre un peu plus. Dieu n'a pas de femme. Ça voudrait dire quoi si Dieu a une femme? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça implique si Dieu avait une femme? Ce serait plus le monothéiste. Ouais, c'est vrai. Ok. Ce serait plus le monothéiste. Donc ce serait du polythéiste, c'est ça? Ce sera, il faudrait vénérer Dieu et la femme de Dieu, c'est ça, d'une certaine manière? Et son fils qui est issu de la naissance de sa femme et de Dieu. On peut revenir dans des cultures. Tiens, tu vois, il y a des petites mythologies qui arrivent, des dieux grecs, le dieu du soleil avec je sais plus quoi, Tartampion, qui ont enfanté. Non, mais c'est intéressant, dites les choses, parce que c'est. Après, c'est votre mise en pratique, vous comprenez? C'est à un moment donné, c'est les mots qu'on va prendre derrière, c'est ça qui est intéressant. Alors, Dieu a une femme, qu'est-ce que ça implique encore? Il y a plein de choses qu'on pourrait réfléchir. Là, volontairement, c'est une volonté de... Tu vois? C'est eux ce qu'ils sont en train de dire de nous, hein. Tu vois, hein? C'est eux ce qu'ils sont en train de dire de nous. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais.
humaine. Du coup, bah, Dieu qui procrée avec une femme humaine,
c'est l'homme. Alors que tous les hommes sont pécheurs en plus, tu vois, c'est juste comme ça, tu vois. Alors là, tu te dis. Ouais, t'as vu toutes les implications que ça peut faire si on croit en cette idée-là, tu vois, que Dieu a une femme. Voilà. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que Dieu est esprit. Dieu est esprit en lui-même, tout simplement, tu vois. Dieu n'a pas de corps, il ne peut pas être le corps en contact avec le corps pour avoir un, tu vois. Et rien que ça, on peut expliquer déjà que Dieu ne peut pas avoir de femme, tout simplement, tu vois. Donc c'est-à-dire que le Fils, ça ne peut pas être l'effet que Dieu soit avec une femme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et parce que lui, il va dire que c'est... Vous dégradez Dieu. C'est un blasphème. Eh bien, n'hésitez pas à leur dire. Effectivement, quand je lis dans la parole de Dieu, c'est un blasphème. Notre Dieu ne peut pas avoir une femme. Notre Dieu ne peut pas avoir un enfant en ayant une relation sexuelle avec une femme pour avoir un enfant. Vous avez raison dans ce sens-là. Fils d'eux, ça ne veut pas dire ça. Alors, il va dire, ben alors ça veut dire quoi alors? Il va nous poser la question, ça veut dire quoi? Et c'est ça qui devient intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, comprendre notre prochain, c'est de comprendre pourquoi il pense comme ça. Et s'il y a des mauvais a priori, des mauvaises idées, il faut prendre le temps d'expliquer avec douceur, avec exactitude, pourquoi il a ça. Et après, derrière, on pourra dire, mais qu'est-ce que ça veut dire fils d'eux? Alors, on va continuer. Et là, voilà la réponse qu'on peut dire. Si vous ne savez pas, des fois, vous pouvez directement prendre le passage biblique. D'accord? Des fois, vous fliotez le passage, vous ressortez le passage. Vous vous rappelez que la naissance de Jésus, c'est l'évangile, c'est peut-être le premier ou le deuxième chapitre, tu vois. Ah, je sais plus, c'est Matthieu, non, c'est pas grave. Bon, ouais, je vais sur Marc, non, c'est pas ça. Bon, je vais sur Luc. Ah, bah, c'est vrai, j'ai retrouvé, c'est sur Luc, tu vois. Bon, je ne sais pas comment te répondre, mais il me semble dans la parole de Dieu, dans la Bible, en tout cas le livre des chrétiens, il y a marqué ça. Donc, pour te confirmer, effectivement, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, je laisse la Bible le dire, que c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie. Voilà. Parce que quelqu'un peut lire ce passage-là, très important, on laisse la parole de Dieu parler. C'est la parole de Dieu qui répond directement à notre ami, et pas à nous, finalement, parce qu'on le laisse lire. Alors, Luc 1, 34, 35. Alors, quelqu'un peut le lire juste à voix haute, juste pour qu'on voit comment Jésus est arrivé.
Marie.
Vas-y, ouais,
Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu.
Voilà. Vous avez vu, la parole elle-même répond. Même pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est... Comprenez pourquoi il nous pose ces questions-là et laissez la parole répondre. Faites confiance à la parole. La parole peut répondre. Voilà. Et là, il dit, ah ouais, c'est incroyable, même la Bible qui est entre guillemets falsifiée, elle répond de cette manière-là. Donc finalement, ce que j'ai pensé, c'était pas bon. Alors du coup, c'est intéressant, tu vois. Ça fait, tu vois. Encore une fois, tout cela ne peut être fait que quand vous avez des amitiés avec les gens. Encore une fois. Les amitiés au travail avec votre collègue, les amitiés avec vos potes. Ils voient que vous êtes un bon pote, quoi. Vous n'êtes pas là pour le casser, vous êtes là pour l'aimer. Sinon, vous ne pouvez pas avoir des discussions comme ça où il va vous poser des questions. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est super, super important. J'insiste encore une fois, l'attitude et notre témoignage. Ensuite, derrière, être prêt. Et être prêt, c'est être préparé devant le Seigneur avant tout. Et après, derrière, quand il y a des bonnes occasions, eh ben, on peut partager librement et clairement sa parole. Et puis, autre chose aussi, ça, c'est ce que j'ai appris quand j'ai regardé certains commentaires, c'est que dans la langue arabe, quand on dit « fils d'eux », d'accord, souvent on aime bien dire « je suis fils du Maroc »,« je suis fils du Soudan »,« je suis fils de 10 ans ». Ça ne veut pas dire « 10 ans est ton père », ça ne veut pas dire « Soudan est ton père », ça ne veut pas dire « qu'Égypte est ton père ». Ça veut dire « fils de 10 ans », c'est « tu es quelqu'un qui a 10 ans ». Dans leur tournure, dans leur manière de parler, tu vois. Mais le mot « fils » qu'ils utilisent en arabe n'est pas le même que le « fils » dans le sens où il est enfanté par sa maman. Alors ça, j'ai regardé un peu, hein. Je connaissais pas plus, hein. J'ai regardé les commentaires, je vous le dis. Mais du coup, c'est intéressant. Parce que on arrive à leur expliquer, est-ce que toi, quand tu parles en arabe avec tes parents, tu vois, est-ce que des fois on dit, ouais, toi, t'es un fils du Maroc, ou toi, t'es un fils de Marseille, t'es un fils de, tu vois. Et si oui, le gars il va dire waouh. En plus, avec la référence culturelle, tu arrives à comprendre qu'en fait, fils du Soudan, ça ne veut pas dire que Soudan est ton papa. Ça veut dire que tu es issu du Soudan, tu es issu de Dieu, tu es issu de la nature divine. Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus-Christ est issu de la nature divine. Donc, tu vois, on n'est pas loin du pas Jésus est Dieu, hein. Vous avez vu? On n'est vraiment pas loin. Hein. Mais déjà, on fait réfléchir de cette manière-là. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui parce que c'est vrai, on a plein d'informations qui peuvent nous perdre. Et on a parlé tout à l'heure du postmodernisme. Mais celui qui frappe à la porte et qui cherche véritablement dans son cœur, le Seigneur va révéler progressivement la vérité. Et la vérité nous affranchira, c'est ce que la Bible dit. Voilà, répondre avec douceur et avec exactitude, c'est de la pratique. Des fois, on a du mal, on n'y arrive pas. Bah, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On prie devant le Seigneur. Seigneur, j'ai pas réussi à parler avec douceur et exactitude, mais je t'aime, Seigneur. J'aime ta parole. J'aimerais progresser. J'aimerais l'annoncer. Je te fais confiance. Ah, je doute. Mais quand même, Seigneur, je t'aime. Et je sais que ça te plaît lorsqu'on parle de l'Évangile à nos amis qui ne connaissent pas encore la lumière. C'est ce processus auquel. Et n'hésitez pas à le partager entre frères, entre sœurs, même dans vos groupes. C'est très important de s'encourager mutuellement, à partager des choses vraies au quotidien pour s'encourager à aller de l'avant. Ouais, ok. Salut, salut, salut. C'est vrai qu'on a dépassé un peu le temps déjà. Ok. Alors, après, il y a une autre objection. Les chrétiens croient en trois dieux. Ok. On y arrive aussi. Parce que le Coran le dit, tout simplement. Il y a un passage du Coran qui le dit. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ? Salut. Tu vois ? Ils l'ont déjà, tu vois, dans leur... Tu vois ? Notre parole, quand on dit comme ça, on outrage Dieu et on dit du mal et on injurie Dieu, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez dans ce passage, donc ça c'est ce en quoi les musulmans croient, c'est que pour eux, la Trinité, c'est qui ? C'est Jésus, Marie et le Père. Donc déjà, c'est complètement pas la Trinité qu'on a dans notre Bible, tu vois. Mais c'est intéressant, tu vois. Et nous, déjà, on peut dire, ah ben, attends. Il y a déjà une différence. Le Coran dit ça, mais tu peux lire dans toutes les Bibles, que ce soit la Bible catholique, la Bible orthodoxe, la Bible, tu vois. Jamais Marie, je te mets au défi, tu vois, de mettre Marie comme étant d'essence divine. Impossible. Mais eux, ils ont ça, tu vois. Et tu vois, déjà comprendre, eux, ce en quoi ils croient. Quand ils disent trois dieux, qu'est-ce qu'ils mettent en plus? C'est super intéressant. Alors, nous, vous le savez bien, nous... dans le passage « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton passé », on dit que « Tu aimeras ton Dieu », c'est l'unique, l'éternel, il est unique. Donc nous, dans la Bible, à chaque fois, on n'a jamais dit qu'il y a deux ou trois dieux, jamais. Aucun passage ne dit qu'il y a deux ou trois dieux. Ce ne sera jamais mentionné de cette manière-là. Donc ça, c'est les passages. Je l'ai dit très rapidement, mais c'est celui que je viens de vous dire là. Il est déjà dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau. Il se répète. Il est cohérent. Voilà, Dieu est infini. Donc s'il est infini, il ne se partage pas. S'il est infini, comment il peut être deux ou trois? Si tu mets deux ou trois, ça veut dire que tu limites déjà ton infini. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ne serait-ce que dans la raison, tu vois. Dieu existe de tout temps et Dieu est esprit. Voilà, ça déjà, prendre le temps de dire qui est Dieu. Tu vois, des fois on peut dire le Dieu de la Bible, ce que je comprends, moi quand je lis la Bible. Dieu est infini. Comment tu peux limiter à d'autres personnes? Si Dieu est dans Marie, ça veut dire qu'il n'est plus dans le Père, ça veut dire que tu le limites, tu dis qu'il y a trois dieux, mais du coup, ça veut dire que chacun est responsable de sa zone. Non, non, non. Dieu est unique. Il gère tout. Il gère tout. Alors, on va essayer de comprendre encore plus notre prochain, hein, tu vois, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils ont aussi cette autre sourate, nous, il dit ça verset, qui disent pourquoi ils croient en trois dieux. Et ils disent que le Messie Jésus, donc un Messie qui veut dire sauveur malgré tout, hein. C'est un sauveur, hein. Malgré tout c'est un sauveur, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, tu vois, sa parole qu'il envoya à Marie, donc c'est Jésus en fait, hein, la parole de Dieu qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui, croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous, c'est intéressant, hein, tu vois, Ça, c'est leur conception. Tu vois, volontairement, on creuse le truc. Effectivement, vous, dans le Coran, vous dites que, voilà, les trois dieux, vous le concevez de cette manière-là. D'accord ? Jésus n'est qu'un messager d'Allah. Ce n'est pas fils de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est eux, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Sa parole qu'il envoya à Marie, tu vois, c'est Jésus qui est arrivé, hein, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui. Voilà leur conception à travers le Coran. Et là, tu dis, mince, je suis paumé, là. Plus j'ai étudié le Coran, moins je sais comment me défendre, tu vois. Parce que ça fait déjà deux trucs, deux passages où ils te reprennent, tu vois. Mais c'est bon signe. C'est bon signe. Quand on cherche vraiment la vérité, il y a des moments comme ça. Il faut accepter, tu vois, que le Seigneur travaille, tu vois. OK ? Puisqu'on est jeune, profitons de ce temps-là pour comprendre la foi des autres, tu vois. Quand on rentrera dans le marché de l'emploi, quand on aura des enfants à la suite, parfois, c'est des questions qu'on ne se posera plus forcément, tu vois, et pourtant qui sont ô combien importantes, parce que c'est elles qui guident vers le salut. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, chez nous, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas le Père, Jésus et Marie, tu vois. C'est pas Dieu, le Père et Marie, tu vois. Donc déjà, ça, c'est important de leur dire. Et le premier à l'avoir mentionné, plus j'ai fait une faute d'orthographe, c'est Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, voilà. Mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à suivre tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le verset qu'il a dit tout à l'heure, hein, finalement, hein. C'est le même. Hein. Et c'est là, pour la première fois, où il est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on lit dans ce passage, c'est très intéressant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom, le nom, il est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Il n'y a pas marqué « au nom » avec un « S » du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que ces trois-là, même si on les distingue, c'est le même nom.
Excusez-moi, encore un quart d'heure,
ouais. Jusqu'à 30. Ok, ça va. Question, ouais. Question avec ?
Question comprise, ouais. 30, on en arrête vraiment.
Ok, d'accord. Ok. Alors là, voilà, juste pour comprendre un peu, quand on dit que Dieu est Dieu, c'est normal, on comprend. On prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu, c'est normal. Eux, ils vont dire c'est Allah. Pour nous, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu, c'est Dieu. Dieu existe en tant que Dieu, il est Dieu. Je n'ai pas à remettre en cause. L'Esprit de Dieu est Dieu, ça aussi, ils comprennent. Dieu est esprit, Dieu n'est pas le corps. Mais pourquoi, dès que c'est Jésus qui est Dieu, ils ne comprennent plus ? Pourquoi ils ne comprennent plus ? Et qu'est-ce que dit la Bible sur Jésus ? Elle le dit dans Jean 1, vous le voyez, la parole, c'est la parole de Dieu qui était avec Dieu et qui était Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est incarnée en chair. La parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu, eh bien Dieu, vous êtes d'accord. L'attribut, la parole reflète entièrement la pensée de Dieu. La parole elle-même, elles ne font qu'un, tu vois. Quand on dit la parole d'Alexandre, c'est bien Alexandre. Quand on dit la parole de Denis, c'est bien Denis. C'est l'identité de Denis. Quand on dit la parole de Samuel, c'est Samuel. C'est pas quelqu'un de différent. Non, c'est la parole qui a parlé, c'est pas Samuel. C'est pas la même chose. C'est la parole de Samuel, mais c'est pas Samuel. C'est deux trucs différents. Tu peux pas les lier. Non. La parole de Dieu et Dieu, c'est dans l'essence même de Dieu. Tu vois ? Ta parole traduit qui tu es, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas réussi à comprendre, et on doit prier dans ce sens-là, c'est parce que la parole s'est faite homme. Elle s'est incarnée en chair. Dieu, dans son mystère, a fait que la parole de Dieu devienne un corps. C'est un mystère. Et quand c'est un corps, forcément c'est un corps, c'est un humain. Tu vois ? Bien sûr, il est humain. Il s'est fait chair. Mais ça vient d'où, en fait ? Elle est où, l'origine ? C'est la parole de Dieu. Voilà. Messager de Dieu, comme le disent nos amis musulmans, ou Dieu lui-même, à travers sa parole. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est important. Parce que vous allez voir les implications que ça va avoir de la suite. Pourquoi, nous, on dit que Jésus est Dieu ? Ça change tout de dire que Jésus n'est qu'un simple homme. Vous allez voir la suite. Ça joue sur votre foi personnelle. Avant de dire les autres, votre foi, si Jésus n'était pas Dieu... À quoi ça sert de croire en Jésus ? À quoi le sacrifice de Jésus n'a pas la même valeur ? Vous allez comprendre la suite. Et ça, c'est très très important. eux, ils s'en rendent pas compte, tu vois. Ils disent non. Ils parlent du problème avec Marie, ils parlent non, c'est pas possible. Mais bien sûr, tout ça, c'est uni. Et il y a plein de versets dans la Bible, dans l'évangile de Jean, je vous inviterai à relire justement. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Je ne fais que ce que le. Enfin, je paraphrase. Hein. Je ne fais que ce que le Père me demande de faire. Enfin, tu vois, il y a une unité d'action, tu vois, totale entre le Fils et le Père. Voilà. Et derrière, au-delà de ça, ce qui est important, c'est comment nous pouvons leur apporter le salut, la bonne nouvelle. Voilà. Et en fait, pourquoi je complexifie tout ça depuis tout à l'heure, c'est pas moi qui complexifie, c'est la Bible qui en parle de cette manière-là. C'est que derrière, Jésus, il est fils de Dieu et fils de l'homme. Il est Dieu et il est homme. 100% Dieu, 100% homme. Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est incarnée en chair. Jésus s'est fait homme. Et pourquoi on sait qu'il est homme? Ben, il avait faim, il avait soif, il avait besoin de dormir, il était fatigué. Il avait, voilà, il devait marcher pour aller de Jéricho à Jérusalem, tu vois. Alors bien sûr, il pouvait être transporté, mais il l'a fait en tant qu'humain, limité par les capacités humaines, comme toi et moi, volontairement. Et Jésus, c'est Dieu qui choisit de se manifester dans l'humanité. Et c'est là où il est fils de Dieu, à travers la parole, ce que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure. Très rapidement, là c'est juste pour vous donner un premier insight, parce qu'il ne me reste plus 15 minutes. Et là c'est très important, parce que s'il n'était pas Dieu, il était humain. Si Jésus n'était que fils d'Adam, si Jésus n'était que fils de l'homme, alors il serait pécheur. Il serait pécheur, il aurait péché. Comment tu veux te sacrifier si toi-même tu es déjà pécheur? Comment tu peux donner ta vie pour quelqu'un alors que toi-même tu es déjà pécheur? T'es mort, c'est normal. Alors ne parle pas de sacrifice, tu es mort parce que tu as péché, c'est tout. Tu es mort à la croix et c'est tout. Tu vois? Mais par contre, s'il n'avait jamais péché et qu'il est mort, alors assurément, il est de Dieu. L'homme a péché et est loin de Dieu. Mais Dieu ne peut jamais pécher, sinon il se renierait lui-même. Vous comprenez? Vous comprenez un peu la réflexion, la pensée par rapport à ça? C'est très important. Et bien en fait, ce qui est incroyable, les musulmans, c'est que pour eux, par rapport aux autres prophètes, parce qu'eux ils le considèrent comme un prophète, Jésus c'est celui qui était parfait. Donc vous pouvez parler de la pureté de Jésus. C'est quelque chose de très très intéressant.
Et quand ils disent qu'il était un parfait pureté, est-ce que pour eux, c'est un homme sans péché ou c'était un homme parfait qui n'était pas en bonne action?
Sans péché. Il me semble. Alors, encore une fois, c'est bien que tu parles dans cette... Bah, pose la question à ta collègue. Parce que du coup, ça peut, tu vois, nourrir les discussions. Laisse-la dire et laisse-toi te faire explorer, tu vois, même elle par rapport à son monde, tu vois. Et nous faisons confiance dans le Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur le ciel. Dans le ciel, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce pouvoir que Dieu nous donne, finalement. Jésus a déjà vaincu la mort. Faisons confiance en lui. Même si, des fois, sur le coup, on n'a pas la réponse, ok. Visons loin. Visons à long terme. Visons le salut de ces gens qui sont perdus. Tu vois, à long terme. Tu vois. Alors, voilà, comment Jésus peut-il être complètement Dieu et complètement homme? Ça aussi, c'est un truc qui dépasse l'entendement, tu vois. C'est une question, tu vois. Tu ne peux pas être Dieu et tu peux pas être complètement homme. Et bien ça, j'ai trouvé une explication assez intéressante. C'est que parfois, dans le Coran même, j'ai regardé des commentaires, vous inquiétez pas, j'ai regardé un peu le Coran, mais pas en entier. Le spirituel peut se manifester dans le physique. C'est-à-dire que... Dieu s'est manifesté à plusieurs manières auparavant. Par exemple, il y a un des passages qui est commun au Coran et à la Bible, c'est le buisson ardent. Rappelez, le buisson ardent, la présence de Dieu, le buisson qui brûle, tu vois, avec Moïse. Moïse qui se rapproche de ce buisson ardent, et c'est l'Éternel qui parle à travers ce phénomène, tu vois, à travers cet endroit-là, tu vois. Et eux, ils ont également ce passage. Nous, on l'a dans la Bible, eux aussi, ils l'ont dans leur Coran. Si Dieu peut se manifester justement à travers un buisson ardent, pourquoi ne pourrait-il pas se manifester à travers l'homme qui lui-même est créé à l'image de Dieu? Il le fait à travers des objets en quelque sorte, tu vois, enfin il se manifeste sa présence. Pourquoi il ne pourrait pas le manifester justement à travers? Et là c'est super intéressant du coup, même pour toi dans ta foi c'est intéressant, tu vois. Ça suit, tu fais « Waouh Seigneur, t'es trop fort », tu vois. Tu vois, t'es encouragé dans la foi quand tu recherches. Tu vois, il y a de tout. Il faut la connaissance et il faut la confronter aussi. Et c'est comme ça où dans la foi, on est motivé, tu vois. C'est le Seigneur qui nous donne ses bénédictions, en fait, tu vois, à ceux qui lui obéissent. Alors c'est vrai, des fois, on peut être moqué. C'est vrai, des fois, on peut être... et encore, c'est rien par rapport à d'autres pays. Mais quand même, on peut être moqué. On peut être marginalisé sur certains points. Mais le fait de découvrir la vérité, c'est quelque chose au plus profond de votre cœur, tu vois, qui réjouit. Et là, tu vois, oh, Seigneur, c'est bon, ça, tu vois. Le spirituel se manifeste dans un corps humain physique, même dans le Coran. Mais pas Jésus. Mais dans un autre exemple, tu vois. Bon, tu vois. Quand j'ai vu ce passage, je l'ai relu en français pour être sûr. Tu vois. Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, tu vois, l'accouchement de Marie n'est pas le même que dans la Bible. Ouais, il y avait Joseph à côté, là on parle même pas de Joseph, tu vois, dans le Coran. Tu vois, c'est intéressant, tu vois. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, l'ange Gabriel pour eux, tu vois, pour eux l'ange, tu vois, ouais, qui se présenta à elle, tu vois, l'esprit, tu vois, notre esprit, tu vois, donc c'est l'esprit de Dieu, tu vois, notre esprit, tu vois, enfin l'esprit d'Allah pour eux, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Alors j'ai trouvé ça trop bon, tu vois. Je suis waouh. Tu vois. C'est-à-dire que pour eux c'était un blasphème, mais l'esprit de Dieu peut se manifester sous la forme d'un homme parfait. Et c'est ce que le Coran dit aussi. Alors combien peu. En fait, c'est pas que. Tu vois. Et après derrière, tu vois, c'est parce qu'au début, ils croient au Coran. C'est pour ça que je suis obligé de mettre quelques passages du Coran. Tu vois. C'est comme ils croient au début ça. Là, derrière, tu te dis, ouais, mais attends, la Bible, elle n'a pas falsifié, alors, du coup. Voilà comment on peut répondre tranquillement, avec douceur et exactitude. Là, je vous ai fait un condensé, un accéléré, tu vois. C'est pas évident, faut digérer. Vous avez remarqué? Faut chac. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Prenez le temps, tu vois. Priez. Remettez ça entre les mains du Seigneur. Et priez pour Dieu donne des occasions, tu vois. Le Seigneur veut pas qu'on fasse des choses à la va-vite. Il veut qu'on les fasse avec le cœur. C'est surtout ça. Ça peut être plus rapide. Hein. Le temps, c'est Dieu qui décide. Mais par contre, il faut le faire avec le cœur. C'est ça le plus important. Je saute. Le reste. Voilà. Je saute, je saute. Et là, c'est quelque chose de très important. Quand vous parlez avec les musulmans aussi, une des choses qui est importante dans toutes les religions, c'est où on va après la mort. Peu importe ta religion. Tu peux être bouddhiste. À un moment donné, les gens, ou les philosophes, ou même agnostique, les gens se posent une question. Pourtant, on n'est pas mort, on est vivant, tu vois. Mais on se pose quand même cette question. C'est un mystère que Dieu a mis dans notre cœur. Et où je vais après la mort? Surtout quand tu as des décès dans ta famille. Là, tu commences à percuter. Quand tu n'en as pas, ça va, tu vois. Quand tu as des décès, tu commences à percuter. Ou quand tu commences à grandir un peu dans l'âge, tu vois. Tu le vois parfois avec nos grands-parents qui se posent des questions sur la mort. Tu vois, quand on a la chance d'être en famille et d'échanger. Et tu dis, si c'est arrivé dans toutes les générations, à un moment donné, je vais me la poser cette question, c'est sûr. À un moment donné, moi aussi, je vais prendre de l'âge, tu vois, et je vais en arriver là, tu vois. Et donc, quand on discute avec les musulmans, et ça, on aura le temps d'en parler après, tu vois, si vous avez des questions, c'est que pour eux, le salut n'est pas certain, pour les musulmans. Il dépend des œuvres. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est intéressant aussi, des fois, dans vos discussions, au-delà de l'intellectuel, parler du salut, c'est important. Parce qu'à un moment donné, il n'y a que ça qui reste à la fin. Dans le vie, c'est est-ce qu'on est sauvé ou on n'est pas sauvé? N'oubliez pas ce point-là. Alors, pas toujours directement avec la Bible falsifiée ou pas, tu vois. On prend le temps.
Pour eux, quand on dit que nous, il y a l'assurance du salut, pour eux, c'est un peu arrogant.
Ouais.
C'est-à-dire, d'où tu te prends pour dire que
ce sera
sauvé? Ouais. Alors, comment est-ce que j'ai déjà fait, etc. Après, il faut dire si Jésus est bien, ouais. Pour eux, par expérience,
C'est arrogant, en fait, pour nous, en fait, de dire « Mais qui es-tu, toi? Pour qui tu te prends ?» De croire, voilà, de dire les choses. En tout cas, là, j'apporterai pas la réponse, je laisse la Bible parler, tu vois. Il n'y a que le Saint-Esprit, souvenez-vous ce qu'il était au début, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Il n'y a que lui, donc il n'y a pas à nous, tu vois. Faisons confiance une fois à la parole, elle parle. Et c'est pour ça que la Bible n'est pas un livre comme les autres, en fait. Parce qu'elle parle, en fait. Elle fait percuter les gens, tu vois. Peut-être que tu ne le vois pas chez ton ami. Mais peut-être qu'avant que ça le percute, ça te percute déjà. Quand tu parles avec ton prochain, tu vois. Ah ouais, est-ce qu'on est arrogant? Du coup, toi, tu poses la question sur toi. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? C'est vrai, on est arrogant? Zut. On a fait quoi, quoi? on se la pète vraiment sur cet aspect-là. Il y a un truc biblique qui dit dans ça. Mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Et non, elle part de la grâce après derrière, tu vois. Et après, on peut lire la Bible et déjà, ça nous nourrit à nous tout seul. Tu vois, voyons-le dans deux directions. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, vraiment. Le salut, je vous laisse avec cette idée-là, finalement. L'agneau de Dieu. J'aime bien parler de cette image-là. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est venu. Et le passage d'Ésaïe 53 est magnifique. Certains le connaissent. C'est un passage qui raconte, avant la venue de Jésus, la manière dont Jésus va venir et va se sacrifier en tant qu'agneau pur pour le salut des hommes. Tout simplement. Et le verset, pourquoi ? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, il l'a pris à notre place, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice s'obtient parce que quelqu'un a payé à ma place. Le verset le dit vraiment clairement. Voilà. Ces passages-là sont assez intéressants. J'ai pas trop le temps pour en parler, mais tout est lié, encore une fois. Je reprends le fait qu'il est pleinement homme, parce que s'il n'était pas homme, comment tu veux qu'il meure à la croix ? Dieu ne meurt jamais. Il a fallu être homme pour mourir, tu vois. Il faut un corps pour mourir, il faut du sang pour mourir, tu vois. Et il est aussi pleinement Dieu, parce qu'il a toujours marché dans la justice, dans l'intégrité, dans la pureté, et ça, nos amis musulmans le comprennent, tu vois. Dans la droiture, et rien de mal n'est sorti de sa bouche, et ça, on le dit déjà dans Ésaïe 53. Aucune parole mauvaise n'est sortie de la bouche de Jésus-Christ. Aucune. À la croix, vous vous rappelez de la scène à la croix ? Imaginez-vous à la croix, comment il a réagi par rapport aux gens. Les gens qui le frappaient, qui se moquaient de lui, au moment où il avait le plus mal, comment il a réagi? Pas un mot de travers. Niette. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas pécher à la dernière minute. Hein. Sinon, ça ne marche plus. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu imagines s'il pêche? Zut alors, on a raté le sacrifice. Mais non, mais Dieu avait tout prévu. C'est ça qui est beau. Mystère insondable de Dieu. Il avait tout prévu. L'agneau. Et l'agneau, ils comprennent, hein. C'est l'Aïd pour eux. Tu vois ? L'agneau de Dieu parfait qui vient naturellement. C'est pas celui que tu vas au supermarché acheter et que tu sacrifies. Lui, il a rien demandé, hein, l'agneau. Celui-là, il était volontaire. Il est venu délibérément pour offrir son corps en sacrifice pour l'humanité. Et c'est pas pareil. Quand un amour est fait quand tu aimes quelqu'un et que tu le fais délibérément et que c'est pas forcé, la valeur est d'autant plus forte. C'est Jésus. C'est la grâce. Voilà. Conclusion. Je rappelle, toujours parler avec douceur et exactitude, parce que premièrement, c'est ce qui honore Dieu. Avant de parler des autres ou de nous-mêmes, c'est ce qui honore Dieu. Si vous avez déjà compris ça, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu vois, toujours. Interroger sur ce pourquoi il croit. Écouter ses réponses, tu vois, écouter pourquoi il pense comme ça. Faire confiance à la Bible pour répondre. Et là, Jésus est plus qu'un prophète. Il est Dieu qui s'est fait chair selon la Bible, selon ma foi. Et Jésus lui-même est l'incarnation de la parole de Dieu. Voilà les 5 points à peu près qui se reprennent à chaque fois dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Le conclusion, si vous voulez retenir, c'est l'idée, elle est là, tu vois. Des exemples, comment faire, pratique. Invitez vos potes chez vous à manger. Nous, les Chinois, on est accueillants. On peut faire preuve d'hospitalité. Juste, tu vois, des fois, pas forcément en disant les choses, mais au moins montrer que la foi qui est chrétienne, elle est vivante, tu vois. C'est pas facile dans nos sociétés, c'est vrai, en Ile-de-France, ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais avec Dieu, c'est possible. Nous pouvons ouvrir nos maisons, inviter nos amis musulmans. Et ça, dans leur culture, ils sont très sensibles. Très, très sensibles à l'hospitalité. Ils le sont déjà, eux, tu vois. Ils le sont déjà. Eux-mêmes sont hospitaliers. Si t'as des amis musulmans aussi, des fois, ils peuvent t'inviter et tout, à manger, t'es là, t'as assis par terre.
C'est fait.
Tu vois ? Bah ouais, tu vois. Et ça, c'est... tu vois, c'est biblique, en fait, aussi. Tu vois, c'est biblique, tu vois. Et puis, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est un combat spirituel. On ne s'en rend pas suffisamment compte. Et là, j'ai bien aimé cette phrase. Il dit, la prière n'est pas un devoir, mais avant tout une participation à la vie, à l'activité et à la volonté de Dieu. Voilà. Vraiment, je répète cette phrase vraiment qui est importante. La prière, c'est pas un devoir. C'est pas « il faut prier ». Si tu dis ça, c'est mort. Tu vois, il faut prier. On le dit souvent parce qu'on le dit par rapidité, en nous encourageant, tu vois. Mais au fond, la prière, c'est quoi ? La prière, c'est déjà un acte de foi. Je crois que Dieu va agir, Dieu va me faire comprendre encore plus quelle est sa volonté. Dieu va me faire encore plus comprendre comment je peux être un petit grain de sable qui peut servir par rapport à la gloire de Dieu qui se répand dans toutes les nations. Voilà un peu comment l'attitude qu'on a par rapport à la prière, par rapport aux gens qu'on remet. Et puis, la dernière chose aussi, eh ben persévérer. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Persévérer, tu vois. Persévérer. Si vous le faites de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, continuez à faire confiance dans le Seigneur. Voilà. Les choses que vous faites sont bonnes, sont dans le Seigneur. Votre conscience est bonne devant le Seigneur. Même si je n'ai pas dit les choses parfaitement, mais je l'ai dit avec le cœur et je progresse de jour après jour. Persévérez dans la foi que Dieu peut sauver avec nos amis musulmans. Voilà. C'est ce que nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers. Autrefois, les gens ont vécu dans cette relation de confiance et de persévérance par rapport à Dieu, dans toutes les nations. Et quand vous voyez l'Église qui est persécutée, vous voyez la persévérance qu'ils ont dans la foi. C'est une constante pour tous, pour nous, pour eux, pour tous les enfants de Dieu. Le Seigneur nous donne cette épreuve à chaque fois. Un enfant qui n'est pas châtié, mais dans le bon sens du terme, qui n'est pas corrigé par Dieu, n'est pas un enfant, mais plutôt un fils bâtard. C'est ce qui est. C'est Dieu le dit. Et nous apprenons de cette manière. Voilà. Ça, c'est des cas pratiques au quotidien que je peux vous laisser. Ouais. Est-ce que vous avez questions, ou même réflexion, ou même partage ? Même partage par rapport à ça. On se connaît, donc vous savez, moi je peux vous guider vers les sites, vers les choses, ou même si vous avez un cas particulier, parfois, par rapport à une personne, c'est encourageant de prier les uns pour les autres, avant tout. Je veux dire, voilà, n'hésitez pas en tout cas dans ce sens-là. Et tout ça, c'est, voilà, c'est pour que le royaume de Dieu continue. Et moi, ce que je peux vous dire personnellement, c'est que c'est les réfugiés qui m'ont amené à vouloir questionner sur qu'est-ce que la foi musulmane. Avant, je ne le faisais jamais. Je veux dire, j'ai grandi avec vous. Donc, c'est pas dans notre contexte qu'on a le plus l'occasion, finalement, de faire un peu de recherche sur la foi musulmane. C'est plus les réfugiés qui sont arrivés en France depuis un certain temps, et on le voit dans les informations. Ce contexte-là m'a poussé à me poser ce type de questions et à vous le partager sous cette forme-là, en me disant, j'ai grandi avec vous. On est allé à l'école du dimanche, on a fait les mêmes choses. On sait, je sais d'où on vient, et d'un autre côté, ce que je suis en train de découvrir avec la foi musulmane. Et ça va continuer, ça va continuer. Les migrants économiques vont continuer d'arriver parce que le monde est de plus en plus injuste. Et parmi eux, il s'avère que beaucoup sont d'origine musulmane. Alors pas tous, mais beaucoup sont d'origine musulmane. Et ce qui est incroyable derrière, c'est que eux, quand ils arrivent en France, alors là, c'est mon interprétation personnelle, hein, tu vois. Faut pas, tu vois, là, on n'est plus dans le, tu vois. Je parle avec ma vie là maintenant. C'est que quand ils arrivent en France, ils se demandent même pourquoi les chrétiens ne partagent pas leur foi d'une manière simple. Parce qu'aujourd'hui, on a peur. Donc, comme on a peur de l'autre, on ne veut pas lui partager parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Mais lui, au contraire, pas tous, hein, mais beaucoup se disent, puisque je suis en France, normalement, je devrais avoir des chrétiens. Et les chrétiens vont me parler de leurs paroles. Ils s'attendent à ça, malgré tout. Ils s'attendent plus à ce qu'on leur parle de leur foi, que nous, on parle de notre foi, que... Alors que nous, on met des barrières en disant « Non, non, c'est impossible, c'est compliqué parce qu'ils viennent de pays dont certains sont des pays terroristes, dont certains sont des pays où les gens grandissent en apprenant la langue arabe avec le Coran même. Hein. » Tu vois ? Non, 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 non. N'ayez pas peur. Faites confiance au Seigneur. la France, Paris, c'est un bel endroit, franchement, un très bel endroit. Il y a de belles choses qui peuvent être faites. Souvent, on voit l'herbe qui est beaucoup plus verte ailleurs, on n'en sait rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'herbe ici, elle est quand même incroyable. C'est pour ça que les gens viennent. Si elle n'était pas belle, l'herbe, pourquoi les gens viendraient? C'est la question. Et ils sont juste devant nous, et nous avons cette occasion de venir découvrir qui ils sont. Non seulement leur foi, leur culture aussi, c'est intéressant aussi. La culture afghane, la culture perse, la culture arabe, c'est très intéressant. Leur mode de vie, et aussi leur espérance. Et nous, après, on peut aussi partager notre espérance. Voilà un peu le... Ça demande du temps, c'est clair. C'est pas évident, ça demande du temps. Mais il y a des choses qui peuvent être faites ensemble, en couple, entre frères, ou différentes choses. Moi, j'essaie de le faire à la maison, c'est compliqué. J'en parle un peu à ma mère. Mon frère, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais on essaye. Pour que la maison s'ouvre de plus en plus, pour accueillir des gens, tu vois. Pour inviter des gens qui sont réfugiés et pour venir à la maison. C'est des petits gestes comme ça, qui honorent Dieu, tu vois. Et si ça honore Dieu, c'est bingo. C'est tout ce qu'il faut, en fait. Voilà. Je vous laisse avec vos réflexions. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse.